Vous êtes sur RTL. RTL Matin.
Stéphane Carpentier.
Dimanche 18 avril, c'est le journal de 9h sur RTL avec Agnès Bonfillon. Donc bonjour Agnès.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Et à la une ce matin, une bagarre générale cette nuit à la cour d'assises des mineurs de Paris.
Oui, à la lecture du verdict, des coups sont échangés entre les accusés, mais aussi entre les familles. Pourtant, les peines prononcées sont moins lourdes qu'en première instance. Sur les 13 jeunes jugés depuis un mois et demi pour avoir attaqué et blessé des policiers en 2016 avec des cocktails Molotov, souvenez-vous, cela s'était passé à Viry-Châtillon dans l'Essonne, et bien sur ces 13 jeunes, seuls 5 ont été condamnés de 6 à 18 ans de prison ferme. Les 8 autres, eux, ont été acquitté. Un verdict qui d'ailleurs a profondément choqué les victimes et leurs avocats. Écoutez, maître Laurent Franck-Liénard.
Plusieurs personnes ont été acquittées, c'est la justice. En revanche, les peines prononcées, 6 ans, 8 ans, pour avoir tenté de tuer des policiers, pour les avoir regardés brûler en rigolant, c'est insupportable. C'est insupportable pour la police nationale, c'est insupportable pour les victimes. À mon avis, il y a un très mauvais message. Les policiers que nous représentons, qui étaient dans ces voitures, qui ont été brûlés et qui sont marqués à vie. À vie. 6 ans, 8 ans, on leur crache au visage. On les a brûlés une première fois et maintenant on leur crache au visage.
Des mots très forts après un verdict rendu dans une ambiance très tendue, Valentin Boisset.
Oui, une telle tension que la présidente de la cour a dû s'extraire de la salle et la police intervenir, mains sur les gazeuses qui n'ont finalement pas été utilisées. Quelques secondes plus tôt, lors de l'énoncé du verdict, c'est dans le box des accusés qu'une bagarre éclate. Certains frappent les agents qui les surveillent juste derrière eux. Les policiers tentent de les maîtriser. Les vitres de plexiglas du box tremblent. Puis dans la salle, des proches s'en mêlent. Certaines familles en viennent aux mains, les unes envers les autres. Thibaut de Montbrial, l'avocat d'une policière grièvement blessée en 2016, est alors à quelques mètres du box.
Nous venons d'assister à un naufrage judiciaire. Une bagarre générale a éclaté. Certains accusés qui pourtant venaient d'être acquittés ont tenté, de ce que j'ai vu, d'en agresser un autre. Ont pris à partie également les gendarmes dans une scène d'une violence que je n'ai jamais vue en 25 ans dans une cour d'assises.
6 semaines de procès à huis clos, 14 heures de délibération, mais le calme ne revient pas. La séance est donc interrompue avant même la fin de l'énoncé du verdict.
Compte rendu d'audience signé Valentin Boisset pour RTL. Les 4 hommes actuellement entendus dans l'enquête sur l'enlèvement de Mia dans les Vosges mardi devraient être mis en examen ce dimanche. Et il y a quelques minutes, on a appris qu'un 5e suspect avait été interpellé. C'était vendredi. Concernant la fillette de 8 ans et sa mère, toujours aucune nouvelle. 4000 doses étaient prévues ce week-end à Nice pour les professionnels prioritaires de plus de 55 ans, les enseignants, les policiers, les gendarmes. Eh bien, seules 58 personnes se sont déplacées pour recevoir cette première injection. Le centre dédié a donc fermé ses portes dès la mi-journée. Sachez qu'aux frontières, désormais, les voyageurs arrivant du Brésil, d'Argentine, du Chili, mais aussi d'Afrique du Sud, tous ces voyageurs devront respecter une période de quarantaine obligatoire de 10 jours. Et cette fois, les forces de l'ordre pourront venir vérifier la présence de ces personnes à leur domicile.
Allez, une information positive, Agnès Bonfillon. Une opération solidarité chez Air France.
Le secteur aérien est fortement impacté avec la pandémie. Moins d'avions et des conséquences dramatiques sur le personnel. Par exemple, les pilotes que la compagnie aérienne devait embaucher en CDI n'ont pas pu l'être. Et certains touchent le chômage ou sont carrément au RSA aujourd'hui. Ce qui a poussé la section du syndicat des pilotes d'Air France à se mobiliser, c'est une information que vous nous révélez, Arnaud Touche.
Oui, et c'est une première pour le syndicat national des pilotes de ligne. En lien avec la direction, ils ont proposé aux pilotes d'Air France et de Transavia de pouvoir faire don de leur congé.
En ce moment, les pilotes sont en sous-activité, on est en chômage partiel, et le don de congé est quelque chose d'assez facile à faire pour les pilotes.
Guillaume Schmid est le vice-président de la section Air France, et au bout d'un mois de collecte, il se félicite du succès qui est au rendez-vous.
Il y a eu 832 participants exactement à cette cagnotte et ça représente environ, les calculs sont encore à faire, mais je pense qu'on va approcher du million d'euros et on en est très content.
Au total, 2282 journées de congés seront converties en euros, une générosité possible grâce à l'accord sur le chômage partiel de longue durée. Cette somme sera partagée parmi les pilotes qui en ont le plus besoin.
C'est plus que réconfortant.
Guillaume est en lien avec eux, certains devaient intégrer la compagnie juste avant la crise et se retrouvent désormais au RSA, alors cette aide est plus que la bienvenue.
C'est beaucoup d'argent, c'est une aide conséquente. conséquente qui va servir à des gens qui n'ont strictement rien, pas d'aide pour le moment et qui sont donc dans l'attente du redémarrage du trafic pour tout le monde.
Le syndicat a confié la gestion de ces dons à une association qui sera chargée de les répartir parmi les pilotes les plus en difficulté.
Une information d'Arnaud Touche pour RTL. Dans le secteur automobile cette fois, chez Renault, pas question de se laisser abattre par le contexte sanitaire. Le directeur général du groupe estime ce matin qu'il sera possible de créer l'équivalent de 8 milliards d'euros de produits intérieurs bruts dans les prochaines années. Dans le journal du dimanche, Luca De Meo détaille ses objectifs avec le pôle de production de voitures électriques dans le Nord, qui doit devenir d'ailleurs le plus grand d'Europe, mais aussi les activités liées aux véhicules à hydrogène. Pendant que la gauche tente de se rassembler un minimum en vue de la présidentielle de 2022, chez les Républicains, l'heure est aux promesses. Toujours dans le JDD, Guillaume Pelletier, le vice-président délégué du parti, propose d'augmenter le salaire de chaque Français de 20%. Cela permettrait, selon lui, de créer un choc de pouvoir d'achat. Le salaire brut, en fait, deviendrait le salaire net.
9h05, restez là. Dans un instant, Agnès Bonfillon, on revient vous informer. Nous prendrons la direction de la Grande-Bretagne au lendemain des obsèques du prince Philippe. A tout de suite.
RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
À mes côtés, Agnès Bonfillon pour toute l'actualité et donc le premier jour du reste de sa vie sans lui. On a vu hier, lors des obsèques de son époux, la reine Elisabeth II, plus seule que jamais.
La souveraine, toute de noir vêtue, avec un masque lui cachant le visage, faisait face au cercueil du prince Philippe dans la chapelle Saint-Georges de Windsor. Depuis, cette image, la solitude d'une reine, fait le tour du monde. Bonjour Marie Billon.
Bonjour.
Vous nous avez fait vivre ce jour si particulier sur RTL, Marie. La photo est également en une de la presse britannique ce matin.
Oui, c'est le cliché vraiment partout. La reine, d'habitude toujours accompagnée, toujours en tenue fluo, là, isolée de sa famille, tout en noir. Le plus esselé des adieux, titre le Sunday Mirror. La reine véritablement seule pour la première fois en 73 ans, ajoute le Daily Star. Le Daily Express lui préfère envoyer un message à Elisabeth II. Vous n'êtes pas seule, et ajoute que la reine avait des larmes aux yeux toute seule, mais nous partageons sa douleur.
Autre image de cette cérémonie, Marie, les retrouvailles entre Harry et William, elles ont été scrutées, ces retrouvailles, analysées, décortiquées.
Oui, et dans les pages d'intérieur, tous les journaux consacrent au moins un article aux deux frères qui sont revus pour la première fois depuis l'interview choc avec Oprah Winfrey. Mais il n'y a que deux quotidiens qui y consacrent un bout de une. Le Daily Mail fait en fait une double une. Comment Kate a réussi à faire se parler les deux frères après un début très froid. Et le Daily Star a juste une petite vignette en bas où on voit les deux frères à la sortie de la chapelle sans titre ni explication. Le Daily Telegraph, lui, élabore un peu plus à l'intérieur de ses pages. William et Harry ne sont pas regardés pendant la procession ni pendant la messe. Et puis à la sortie de la chapelle, Harry et Kate ont commencé à discuter, et quand tout ce petit monde a commencé à marcher, Kate, William et Harry ont avancé ensemble avant que Kate, diplomatiquement, ne s'efface pour laisser les deux frères marcher tout seuls en continuant à discuter. Toute la presse salue aujourd'hui Kate, la pacificatrice.
Merci Marie Billon, direct de Londres pour RTL. En Russie, les médecins d'Alexei Navalny demandent à le voir au plus vite. Ils estiment que l'opposant de Poutine, en grève de la faim, emprisonné, risque un arrêt cardiaque à tout moment. Et dans une tribune au journal Le Monde, plus de 70 personnalités appellent également le Kremlin à le soigner. Il était l'avant-dernier survivant du commando Kiefer. Hubert Faure, âgé de 106 ans, est mort dans la nuit de vendredi à samedi. Le 6 juin 1944, il faisait partie des 177 Français à débarquer en Normandie. Il restera pour cela un héros de la France libre, selon Emmanuel Macron.
Le football et la Ligue 1. Marseille remonte à la 6e place du classement.
Oui, après sa victoire à domicile hier, 3-2 face à Lorient. Une belle 33e journée également pour Rennes qui est allé corriger Angers 3-0. Au programme de ce dimanche, Brest, Lens, Bordeaux-Monaco ou encore Nantes-Lyon. Nantes-Lyon dont vous pourrez suivre le match à 20h dans RTL Foot. Et avant cela, à 13h, le PSG qui va tenter de revenir à un point de Lille, le leader, en battant Saint-Étienne. Sachant que les Parisiens sont sur une belle lancée en Ligue des Champions après leur récente qualification en demi-finale, Jean-Michel Rascol. Et d'ailleurs, beaucoup prédisent au club un bel avenir. C'est l'objet du sondage Odoxa Winamax pour RTL.
En éliminant le Bayern, champion en titre, le PSG a marqué les esprits, une performance vécue comme un exploit par 53% des amateurs de foot. 62% estiment même que la qualification du PSG pour sa troisième demi-finale de Ligue des Champions restera dans les annales du club. Du coup, 64% des passionnés, 48% des Français en général, pensent que le PSG peut remporter le trophée cette année. Un pronostic de victoire qui a progressé de 21 points en deux mois. Il n'était que 43% début février avant la double confrontation avec le Barça. Du coup, 56% des amateurs voient le PSG battre Manchester City en demi-finale, match aller dans 10 jours. 55% des Français, 69% des amateurs de football estiment, comme le président du club, que Mbappé et Neymar n'ont plus d'excuses pour quitter la capitale, puisque le Paris Saint-Germain rivalise désormais, domine même les élites du football européen.
Jean-Michel Rascol pour RTL. En Espagne, Messi et Griezmann offrent son 31e sacre au FC Barcelone. Le club catalan soulève la Coupe du Roi après un très beau match face à l'Athletic Bilbao. Score final 4-0. Et puis cet après-midi en Formule 1, c'est la 99e fois de sa carrière qu'Hamilton partira en pole position. Ce sera sur le grand circuit d'Imola en Italie pour le Grand Prix d'Émilie-Romagne. Et puis Stéphane, Valérie. Ce serait la maison du bonheur. Ah oui, la maison du bonheur, plus précisément la maison au trésor. Car figurez-vous qu'elle existe, elle se trouve dans le Jura, dans la ville de Morey précisément. La mairie, en rachetant une maison, ne s'attendait pas à trouver de l'or à l'intérieur. Et deux fois en un an, s'il vous plaît, Serge Puyot.
La mairie de Morey avait acheté cette maison 130 000 euros à l'un des héritiers d'une famille d'industriels de la ville, les Jobet. Et lorsqu'en 2020, le maire Laurent Petit et son équipe ont commencé à nettoyer la maison, ils sont tombés sur un premier trésor.
Bah, tout d'un coup, au fond d'un placard, il y avait beaucoup de confitures et puis il y avait 5 lingots et un millier de pièces à peu près. Dans ces bocaux, essentiellement des pièces de 20 francs or. En gros, pour une somme de 500 000 euros à peu près.
Et plus récemment, le maire a découvert dans cette maison un petit coffre au fond d'un placard.
On s'est dit, faut quand même qu'on l'ouvre pour voir. Et puis il y avait, moins que la première fois, mais il y avait que des pièces d'or, à peu près 500. Ça fait une somme à peu près entre 100 et 150 000 euros. C'est la cerise de la cerise sur le gâteau.
Ce sont donc au total près de 650 000 euros qui vont tomber dans les caisses de la mairie. Quant à l'héritier qui a vendu la maison, il a été plutôt beau joueur, selon Laurent Petit.
C'est une personne assez âgée qui comptait pas du tout sur la succession en disant, ça revient à la commune, ça devient de l'argent public, on va dire que c'est pour la bonne cause. Oui, très gentleman, oui. Il n'y a pas eu de souci de ce côté-là. Ouais.
La cerise de la cerise sur le gâteau. Merci Serge Puyot.
Parfait Agnès, merci. Longchamp accueille le quintet de l'après-midi.